c'est M. l'abbé Laroche. D'abord comme professeur à Écône, ce n'est pas rien, et envoyé en mission, on peut dire, dans tous les pays d'Asie. Donc Inde, Corée, Japon, Hong Kong, Sri Lanka, qu'est-ce que j'oublie, monsieur l'abbé?
Philippines.
Philippines.
C'est Singapour.
Singapour, et s'occupe du Liban, où il a failli un jour laisser sa peau un peu, je crois. Enfin, si, quand il y avait la guerre. Je sais pas, il a couru des risques importants. Bon, alors, une nouvelle que je pense même certains confrères ne savent pas, c'est qu'il a maintenant une licence en droit canon, obtenue à la faculté catholique de Strasbourg. Vous voyez qu'à Strasbourg, ils savent quand même de bonnes choses. Je vous fais remarquer aussi qu'il est venu spécialement d'école pour nous. Donc, nous le remercions déjà d'avance. C'est pas tout le monde qui voyage la nuit dans des trains pour pouvoir nous donner cette conférence. Non, nous l'écoutons avec grand intérêt.
Merci beaucoup, mon père. Je suis très content d'être ici, cher confrère aussi, pour d'abord pour faire connaissance avec la maison de Caussade, que certainement je viendrai connaître un jour pour faire moi-même une retraite ou pour en prêcher, je ne sais pas encore, mais... mais j'ai fait des retraites, beaucoup, hein, mais pas encore à Caussade. ça viendra. Et puis, autrement, eh bien, oui, donc je suis très heureux de vous parler, cher confrère. J'espère que vous ne serez pas déçus avec tout ce qu'a dit le père Marzillac. Vous allez vous attendre à quelque chose d'extraordinaire, peut-être vous serez déçus. Enfin, j'espère que non. Alors, au sujet de... pour entrer tout de suite dans notre sujet de ce livre, L'étrange théologie de Jean-Paul II et l'esprit d'Assise, c'est le titre... Du livre du professeur Dürrmann, un théologien, prêtre, théologien allemand, qui a fait ce livre avec un titre un peu plus long pour l'édition française. L'abbé Olagnier, qui a choisi le titre, a pensé que ça rendait mieux, ce serait plus intéressant, un titre un peu plus court. Le titre allemand, c'est « L'itinéraire théologique de Jean-Paul II jusqu'à la journée de prière d'Assise ». Alors, il est très intéressant de comprendre la théologie du pape. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais si vous êtes comme moi, vous n'avez pas lu beaucoup de textes du pape. Parce qu'en général, on commence à lire ces encycliques et puis on les referme parce qu'on ne les comprend pas. C'est vrai. Enfin, moi, c'est comme ça. Alors, j'ai été, comme l'abbé Schmidberger m'avait donné ce livre en allemand, et puis j'avais commencé la première traduction que Monseigneur a lue, et il a dit « c'est très intéressant, il faut continuer ». Et de fait, ça m'a beaucoup intéressé, et je pense que maintenant, une fois que l'on a lu le livre, qu'on est entré un peu dans l'esprit du pape, eh bien on comprend beaucoup de choses. On comprend ce qu'il veut dire, et on comprend aussi ce qu'il fait. Parce que quand on parle de Jean-Paul II, enfin pour nous, c'est quoi ? C'est le pape qui exalte les droits de l'homme, il parle que de ça, il parle de l'homme, des droits de l'homme, et puis il rencontre toutes les religions. Toutes les religions, alors on pourrait, peut-être cet après-midi, si on a le temps, des choses que vous connaissez aussi bien que moi, mais faire un peu une application pratique de cette théologie de Jean-Paul II. Comment elle est mise en pratique? Alors, nous allons commencer cet exposé donc en deux ou trois parties. La première, ce sera le constat de ce qui se passe, si vous voulez. Et la deuxième, ce sera d'essayer de trouver les raisons. Alors, choses qui sont développées dans le livre. C'est un petit résumé un peu systématisé que je vais vous donner. Et éventuellement, donc, cet après-midi, il y a aussi une conférence. Alors, cet après-midi, entre autres choses, on pourra aussi voir quelques applications pratiques, si on veut. Comment le pape met en pratique cette théologie dans ses actions, dans ses discours. Alors tout d'abord, à propos du constat, eh bien, Jean-Paul II, vous le savez, était archevêque de Cracovie, et avant cela, il a été professeur d'éthique au séminaire de Lublin, en Pologne. Et ce dont on se rend compte, c'est que le pape reste, même en étant pape, reste philosophe. Il est philosophe, il est professeur et il est pape en même temps. C'est pas impossible d'ailleurs, mais ce sont des choses qui sont manifestes dans ses encycliques, en particulier dans ses discours. Dès sa première encyclique, Redemptor Hominis, le pape a tout de suite affirmé qu'il serait le pape du Concile. Et il revient souvent là-dessus. Le Concile a vraiment été, on l'a vu du temps de Paul VI, mais spécialement avec Jean-Paul II, le Concile est un nouveau départ dans l'Église. Et il a aussi pour objectif de marcher sur les traces de Paul VI et d'accomplir les décisions de Vatican II. Alors, connaissant cela, eh bien, se pose la question, que vient faire une cérémonie comme celle d'Assise dans tout cela? D'autant que Assise n'a pas été un fait isolé. Hein. Au début, on pouvait croire que ce sera un fait isolé, mais non, ce n'est pas un fait isolé. Il y a eu après Assise, il y a eu Kyoto au Japon. Assise, c'était en 86, il y a eu Kyoto en 87 aussi, réunion de toutes les religions, à la demande du pape, hein. Il y avait un représentant ou plusieurs représentants, les évêques du Japon, un représentant venant de Rome, et puis réunion avec les bouddhistes, les shintoïstes, enfin un peu tout le monde. Il y a eu aussi à Rome en 1988, c'était à Santa Maria Trastevere, je crois, oui. Et puis il y a eu à Varsovie aussi en 89, à Bari en 90, dernièrement à Bruxelles, c'était peut-être pas directement le Vatican qui avait mis sur pied cette réunion à Bruxelles, mais c'était aussi avec les représentants du Saint-Siège, etc. Donc ce n'est pas un fait isolé. Alors si l'on en croit Jean-Paul II, eh bien Assise, dit-il, il a dit ensuite pour expliquer ce qu'il avait fait à Assise, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de critiques, hein, en particulier de Mgr Lefebvre, vous avez vu tous un petit catéchisme en images qui avait été fait à l'occasion. Eh bien, le pape disait « Voyez Assise à la lumière du Concile ». Alors, la question que se pose le professeur Dermann, eh bien, c'est de dire, si on lit le texte du Concile, rien dans le Concile ne parle d'une réunion entre toutes les religions. Il n'en est pas question. Alors, voir Assise à la lumière du Concile, eh bien, on ne comprend pas exactement ce que cela veut dire. Et alors, ce que propose l'auteur, là, et qui devient, alors, la clé de la compréhension de tout ce que fait le pape, c'est d'inverser la phrase du pape. C'est « Voyez le Concile à la lumière d'Assise ». Et alors, il montre dans son livre qu'en réalité, Assise, eh bien, c'est pas seulement un aboutissement, mais c'est un point de départ, un nouveau point de départ dans l'Église, qui a été voulu par le Concile. Pas forcément par les pères conciliaires, mais par le Concile. Le Concile a introduit une nouvelle manière de penser dans l'Église. Une nouvelle manière de penser qui doit aboutir à à changer, si vous voulez, l'Église, à réformer, comme on l'entend dire, la conscience de l'humanité, donc à faire cesser toutes les divisions qui existent entre les religions, pour arriver à une seule religion en somme, une religion universelle. Et c'est donc un changement de foi dans l'Église. Un changement de foi dans l'Église. Alors, ce qu'il faut voir quand même, c'est que si dire « voyez le concile à la voyez assise à la lumière du concile » n'explique pas tout, on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de textes du Concile qui sont, comme le montre l'auteur dans son livre, eh bien, des points de départ comme des allumages, vous savez, qui sont susceptibles de nouveaux développements. Alors, par exemple, différents textes sur lesquels le pape s'est basé, quand le Concile dit, par exemple, « Le Christ révèle en plénitude l'homme à lui-même ». C'est une phrase que vous retrouverez aussi dans le Nouveau Catéchisme, d'ailleurs. « Le Christ révèle en plénitude l'homme à lui-même ». Alors, c'est le pape va fonder en fait toute une exégèse, il va faire toute une exégèse de cette phrase qui aboutit à Assise. Alors, on va essayer de voir comment. Alors, comment... une autre phrase, par exemple, quand dans Lumen Gentium, je crois, le concile dit que toutes les religions, que Dieu se sert de toutes les religions comme des moyens de salut. Dieu se sert de toutes les religions comme des moyens de salut. Chose qui est elle-même reprise dans le Nouveau Catéchisme. Alors, toutes ces phrases, hein, on peut les interpréter strictement, de façon traditionnelle, si on veut. Hein. Enfin, moyen, on peut discuter sur le mot moyen, mais à la rigueur, c'est certain que Dieu peut se servir, ma foi, par exemple, les orthodoxes, si on le baptême, pour que quelqu'un reçoive le baptême. Bon, il est plus musulman, il est plus païen, etc. Bon, ce sera... Mais c'est pas un moyen de salut en soi. Ça appartient à l'Église catholique, le baptême. Le baptême, il n'y a qu'un seul baptême. Mais enfin, c'est une phrase, vous voyez, qui est susceptible de développement ultérieur. Et on trouve bien, bien souvent cela dans le Concile. Et alors, comment cela s'est-il fait? Comment cela s'est-il fait? Eh bien... La réponse, en réalité, c'est que le Concile n'a pas voulu être dogmatique, que le Concile a voulu être pastoral, et que le Concile a voulu renoncer au langage scolastique. Alors, et c'est ce que fait le pape. Ce que fait le pape. Alors maintenant, quels sont les documents? On va analyser justement un peu ce que dit le pape, mais quels sont les documents sur lesquels ou dans lesquels on peut trouver la théologie du pape, la théologie du pape qui a conduit à Assise. Alors il y en a un qui est analysé dans ce premier livre, parce que l'auteur a en vue de faire 3 volumes. Hein. Le premier livre qui donne les fondements de la théologie du pape analyse en même temps le livre qui s'appelle... Signe de contradiction, méditation sur le Christ, qui est en somme les conférences d'une retraite que le pape, disons que le cardinal Wojtyla, avant d'être pape, a prêché au Vatican à Paul VI, en 75, je crois, 76. 76, alors c'est surtout ceci qui est analysé là. Et là, on voit, eh bien, le pape se sert dans ses méditations très souvent justement de ces textes de Vatican II, un qu'il aime tout particulièrement, c'est celui de Lumen Gentium, le numéro 22, on pourra y revenir. Texte d'ailleurs, de Gaudium et Spes, hein, Gaudium et Spes, numéro 22. Texte que le pape reprendra, une fois pape, il reprend dans... plusieurs de ses encycliques. Alors le deuxième volume qui va être en 3 tomes maintenant, le premier tome apparu, c'est l'explication, disons l'analyse de Redemptor Hominis. Alors l'auteur nous dit qu'il y a 3 encycliques dans lesquelles le pape a en somme donné toute sa théologie depuis qu'il est pape. C'est Redemptor Hominis, en 78, Dives in Misericordia, en 1980, et puis Dominum et Vivificantem, en 1986. Alors, ce sont 3 encycliques qui parlent, Redemptor Hominis du Fils, Dives in Misericordia du Père, et puis Dominum et Vivificantem du Saint-Esprit. Donc on a toute la théologie, finalement, du pape, qui est donné dans ces encycliques. Et le pape lui-même a appelé ces 3 encycliques une trilogie trinitaire. Trilogie trinitaire. Mais en fait, ce n'est pas du tout un traité sur la Sainte Trinité. Hein. On croit que ça va être cela, mais ce n'est pas du tout cela. Ce n'est pas du tout cela, mais c'est le pape développe à nouveau, en fait, si vous voulez, c'est un peu tout le plan de la rédemption, tout le plan de la rédemption comme il la conçoit. Le plan de Dieu, de rédemption de Dieu par rapport à l'homme. Mais alors, quel est ce plan de Dieu par rapport à l'homme? Alors, on va un peu y arriver maintenant. Mais ce que je fais en réalité, hein, si vous, quand vous lirez le livre, vous verrez que moi, je vous donne actuellement des conclusions. Hein. L'auteur, lui, il a une démarche très méthodique. Hein. Moi, je vous donne les résultats un petit peu maintenant. Je vous fais des affirmations, parce qu'on n'a pas le temps de progresser, alors que l'auteur, lui, procède de manière très, très méthodique. Pas du tout... il ne procède pas par affirmation a priori, comme je fais un petit peu maintenant. C'est ce qui fait l'intérêt de son livre. Ce qui fait aussi que parfois le style en est un petit peu lourd, parce que ça oblige à reprendre pour progresser pas à pas. Mais ça dénote, si vous voulez, l'honnêteté scientifique de l'auteur, quand il analyse les textes du pape. Alors, donc, nous arrivons à cette constatation que le pape, par sa théologie, a abouti à Assise. Et dans ses encycliques, soit il annonce Assise, comme par exemple dans Redemptor Hominis et dans Dives in Misericordia, et puis Dominum et Vivificantem, ça a été aussi l'année d'Assise. Donc il annonce un peu Assise dans ses trois encycliques. Hein. Il donne les principes qui vont aboutir à Assise. Alors Assise, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la réunion de toutes les religions pour prier pour la paix. Réunion de toutes les religions pour prier pour la paix. Alors on fait abstraction des différences en fait qui nous divisent. Chacun, dit le pape, prie Dieu selon la forme qui lui est propre, hein, dans la fidélité à sa tradition, etc. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie en somme qu'il y a un seul Dieu qui est au-dessus de toutes nos divisions. C'est ça que ça veut dire. Il y a un seul Dieu que le pape appelle justement dans ses méditations qu'il avait faites au Vatican en 76, le Dieu d'infinie majesté, le Dieu d'infinie majesté, qui est au-dessus de toutes nos divisions. Et alors il y en a un autre, c'est le Dieu des chrétiens, c'est le Dieu de l'Alliance, c'est le même Dieu, mais comme il n'y a qu'un seul Dieu, on peut prier Dieu de diverses manières, toutes nous conduisent à ce seul Dieu qui existe. Alors évidemment, c'est tout à fait une autre conception. A priori, à première vue, et surtout pour l'esprit moderne, ça peut sembler très beau finalement. C'est un Dieu qui est beaucoup plus généreux, beaucoup plus beau. Tous les hommes se rassemblent auprès de ce Dieu d'infinie majesté. Et d'ailleurs, dans ces méditations du pape, dans ces méditations que le pape avait faites à Paul VI, eh bien, il avait un texte tout à fait intéressant et qui illustrait absolument cette idée. Il disait, c'est vers ce Dieu que le bédouin se tourne, c'est vers ce Dieu que le bouddhiste... page 66, ah d'accord. Ah oui, voilà. L'homme, c'est dans les méditations que le pape faisait, que, disons, le pape actuel, cardinal Wojtyla, faisait à la retraite de Carême, au pape Paul VI. L'homme a une idée de l'infini. Il s'en sert dans les recherches scientifiques, dans les mathématiques, par exemple. Aussi trouve-t-il dans son esprit une sorte de corrélatif pour celui qui est, pour l'infini parfait, pour celui auquel l'Écriture et l'Église apportent leur témoignage. Quand, après chaque préface, les fidèles disent « Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Dieu de majesté infinie. » Le trappiste ou le chartreux confesse ce Dieu par toute une vie de silence. C'est vers lui que se tourne le bédouin pérégrinant dans le désert quand vient l'heure de la prière, donc quand il étend son manteau pour se tourner vers la Mecque, et c'est le même Dieu. Et peut-être aussi ce moine bouddhiste qui se concentre dans sa contemplation et qui purifie sa pensée en l'orientant vers le nirvana. Dieu absolument transcendant, surpassant absolument tout le créé visible et tangible. Tout le créé visible et tangible, c'est aussi la religion chrétienne. La religion révélée par notre Seigneur Jésus-Christ, ça fait partie de ce visible et ce tangible. Et donc, eh bien, le Dieu d'infinie majesté, il est au-delà de notre religion chrétienne, qui est, en somme, qui est vraie, hein, mais qui est accidentelle. C'est quelque chose de mieux que notre Seigneur nous a apporté, mais ce n'est pas quelque chose de nécessaire. Et alors on comprend, en somme, que après le Concile, ben, le Père Marsiac, lui, pourrait nous expliquer cela encore beaucoup mieux, l'esprit missionnaire est mort après le Concile. Parce que, comme le Concile avait l'air de dire qu'on pouvait se sauver dans toutes les religions, il n'y a pas besoin d'être missionnaire pour aller attraper des petites bêtes, ou ça arrive encore, ça, se faire manger moins souvent, mais attraper des petites bêtes, ça arrive encore assez souvent. Pas besoin d'être missionnaire. Mais, alors là, bon, c'était un abus, si vous voulez. C'est pas ça que veut le pape. Le pape ne veut pas cet extrême-là. Il a écrit, il y a 2 ou 3 ans, une encyclique qui s'appelle « Redemptoris Missio ». Alors là, il faudrait la relire, une fois qu'on a bien compris sa pensée théologique. Et, en réalité, dans « Redemptoris Missio » et dans tous les textes qui concernent la mission maintenant, eh bien, on dit « il faut des missionnaires ». Oui, il faut des missionnaires, mais ce n'est pas une nécessité pour le salut. Mais c'est mieux, parce que c'est un devoir de charité qu'ont les chrétiens de faire prendre conscience aux gens de la révélation plus parfaite que nous a apportée notre Seigneur. Mais ce n'est pas nécessaire au salut. Alors la mission, elle demeure dans l'esprit de ceux qui ne sont pas les extrêmes modernistes, enfin, disons, qui ne poussent pas les principes du Concile à leurs conséquences, mais elle n'est pas nécessaire pour le salut. Elle n'est pas nécessaire parce que tout homme, finalement, possède, je dis dans l'esprit du pape, une capacité d'atteindre Dieu, sans qu'il ait besoin de passer par notre Seigneur Jésus-Christ. Ou bien même, si vous voulez, il passe nécessairement par notre Seigneur et Jésus-Christ, qu'il le sache ou non, qu'il le veuille ou non. Ce que dit d'ailleurs le pape dans son texte, dans ses méditations faites à Paul VI. Qu'il le veuille ou non, qu'il le sache ou non, eh bien, il est déjà racheté par le Christ. Tout homme est déjà racheté par le Christ. Qu'il le veuille ou non, qu'il le sache ou non. Alors, si on essaie maintenant d'essayer de trouver les raisons de ce changement de théologie qui aboutit finalement à un changement de la foi. Hein. Je vous disais tout à l'heure, on va redévelopper un petit peu cela, que le Concile a décidé de renoncer au langage scolastique, c'est-à-dire en fait de renoncer à la théologie traditionnelle et surtout à la philosophia perennis, à la philosophie traditionnelle. À foyer une langue pastorale. À ce propos, vous savez sans doute que lors des premières sessions du Concile, lors de la première session où la chose s'est décidée, Mgr Lefebvre, avec d'autres pères conciliaires, avait proposé que l'on fasse 2 schémas, un schéma pastoral et un schéma doctrinal. Un schéma pastoral, puisque les gens savent lire maintenant, tous en général, enfin, ils pourraient avoir lu les textes du Concile et compris assez facilement. Et un schéma doctrinal qui aurait été pour les théologiens. Or, il n'en a rien été, on a voulu faire que des schémas doctrinaux, pastoraux. Schémas pastoraux sur lesquels, finalement, eh bien, on a fondé une nouvelle théologie. Parce que maintenant, c'est à partir de ces schémas, de ces textes pastoraux, de caractère pastoral, eh bien, qu'on établit la théologie. On développe ces textes pastoraux, cette théologie pastorale, ou cette manière de parler pastorale, on la développe théologiquement, alors en la développant un peu comme on veut, puisque le texte n'est pas clair, n'est pas précis, on peut la développer comme on veut. Et on voit la même chose d'ailleurs dans le droit canon. Le droit canon, en principe, doit être fondé, le droit canon est fondé sur la théologie, eh bien, il y a tout un tas de canons du nouveau code qui ont pour source, en réalité, le Concile. Et à partir de cela, eh bien, on fonde un nouveau système canonique. par exemple, la définition du mariage, etc. Le Concile Vatican II, quand il a parlé du mariage, il n'a pas voulu, il n'a pas dit « il n'y a pas de fin première, il n'y a pas de fin seconde », mais il a dit « il ne faut pas parler de ça, c'est pas nécessaire de parler de cela ». Eh bien, le nouveau droit canon, il se sert du texte du Concile qui ne parle plus des deux fins du mariage, la fin primaire, qui est la procréation, et les fins secondaires, que sont le secours mutuel des époux, etc., enfin tout ce que l'on entend par cela. Eh bien, le Concile n'en a pas parlé, et le nouveau code n'en parle pas non plus, mais il prend le texte du Concile, et ensuite, eh bien, il va fonder une nouvelle procédure même pour les mariages, et cela influe non seulement la pratique chrétienne, si vous voulez, par exemple, en laissant croire que la contraception, ça pourrait être autorisé en certaines circonstances, à la mesure où c'est nécessaire pour le secours mutuel des époux, hein, pour que le foyer ne casse pas, et puis d'autre part, ceci est un exemple, le pape n'en parle pas là, mais et d'autre part, eh bien, pour la question des nullités de mariage. Pour la question des nullités de mariage, le Concile a donné une vision du mariage qui était très personnaliste, justement. Et alors, eh bien, il y a tout un tas d'officialités maintenant qui, partant de là, se sont dit, si les époux vraiment n'arrivent pas à s'épanouir dans leur mariage, eh bien, leur mariage n'est pas valide. Et alors, on déclare le mariage non valide. Alors, à partir d'un texte, si se voulait, pastoral, eh bien, on a fondé une nouvelle théologie et une nouvelle canonique, finalement. Et c'est pour tout pareil. Alors, renoncer à la philosophia perennis et aux termes clairs, eh bien, c'était une condition préliminaire pour renouveler la théologie qu'il voulait faire au Concile. Ce qu'il voulait faire. Pas tous, hein, mais ceux qui avaient préparé le Concile, finalement. Et pour aboutir, bien sûr, alors au pluralisme. Pluralisme théologique, d'ailleurs, on parle beaucoup de cela maintenant. Alors, ce que l'on voit, eh bien, c'est que la théologie de Jean-Paul II, c'est une forme de nouvelle théologie, ce que l'on a appelé la nouvelle théologie. Alors, à propos de ce qu'a fait le Concile, il est tout à fait surprenant de voir que une dizaine d'années avant le Concile, le 12 août 1950, le pape Pie XII condamnait cette nouvelle théologie. Il condamnait cette nouvelle manière de vouloir faire de la théologie sans utiliser des concepts précis. Eh bien, 12 ans après, lorsque le Concile a commencé, 13 ans après, cette encyclique, on faisait comme si elle n'avait pas existé. Par exemple, dans cette encyclique, le pape Pie XII disait « Il est clair que l'Église ne peut se lier à n'importe quel système philosophique dont le règne dure peu de temps. Mais les expressions qui, durant plusieurs siècles, furent établies du consentement commun des docteurs catholiques pour arriver à quelque intelligence du dogme ne reposent assurément pas sur un fondement si fragile. Elles reposent en effet sur des principes et des notions déduites de la véritable connaissance des choses créées. » Et alors le pape disait, c'est pour ça qu'il faut rester fidèle à la théologie scolastique et à la philosophie scolastique. Parce que, je vais prendre la citation là, je vais la trouver tout de suite. Parce que si on dévie, si on utilise n'importe quelle philosophie, on va aboutir à une nouvelle théologie. Qui ne sera plus. Parce que si on ne garde pas la philosophie de l'être, on va prendre une philosophie existentialiste, une philosophie immanentiste, et on arrive au modernisme, on arrive à l'évolutionnisme dans le dogme. Alors le Pie XII disait, pendant qu'ils méprisent cette philosophie scolastique, ils font l'éloge des philosophies anciennes ou modernes, d'Orient ou d'Occident, en sorte qu'ils semblent insinuer dans les esprits que n'importe quelle philosophie, n'importe quelle façon de penser, peut, moyennant s'il le faut des corrections et des compléments, s'accorder avec le dogme catholique, ce qui est absolument faux, surtout lorsqu'il s'agit de conceptions comme l'immanentisme, l'idéalisme ou le matérialisme, ou encore l'existentialisme, s'il professe l'athéisme ou du moins s'il rejette la valeur du raisonnement métaphysique. Il n'est pas un catholique pour contester ce désaccord. Alors, la philosophie du pape, eh bien, et la philosophie moderne dans l'Église, bien souvent, c'est cette philosophie soit immanentiste, soit existentialiste, justement. Ce n'est pas l'être qui compte, c'est l'existence, c'est ce sont les phénomènes, la manière dont l'homme perçoit les choses. Et alors, avec cette nouvelle philosophie, eh bien, on garde les notions traditionnelles, on emploie toujours les mots traditionnels, mais ils changent de sens. Alors, ce qu'a fait le pape, on en verra, juste pour terminer, quelques exemples. Hein. Eh bien, ce qu'a fait le pape, c'est qu'il a pris dans le concile ce qu'il y avait de nouveau, et il l'a développé. Par exemple, alors le texte de Gaudium et Spes, numéro 22, que je vais vous lire dans un instant. Alors, est-ce que l'auteur, le père, enfin l'abbé Johannes Dürrmann, est-ce qu'il a raison, en fait, de dire que il faut voir le concile à la lumière d'Assise? Est-ce qu'il a raison? Ou est-ce que c'est exagéré de sa part? C'est-à-dire de dire, Assise, en fait, nous donne la véritable interprétation du concile. Ou est-ce qu'il exagère? Eh bien, le pape Jean-Paul II donc, était cardinal au concile. Il était père conciliaire. Hein. Et donc, quand une fois pape, il interprète le concile de telle et telle manière, on peut dire qu'il en donne une interprétation authentique. C'est pas... Il y a une continuité. Hein. Il interprète le concile comme lui-même l'a fait, comme lui-même l'a voulu. Et si on regarde d'autres pères conciliaires, ou des gens qui ont été à ce moment-là experts au concile, comme le cardinal Ratzinger, tout ça, on voit qu'ils ont la même manière de penser. Même manière de penser. Et donc, ce qu'ils ont fait au concile, puisqu'ils étaient tous dans le même groupe de ces théologiens de pointe, hein, et ce qu'ils font maintenant, il y a une continuité. Et donc, ils ont bien, c'est bien ça. Assise doit être et l'aboutissement du concile. Il faut interpréter le concile à la lumière d'Assise. Alors, ce que veut faire le pape, justement, spécialement dans ses encycliques, eh bien, c'est de donner une synthèse de la foi chrétienne, mais dans le système de pensée de la nouvelle théologie, c'est-à-dire en utilisant des concepts auxquels on va donner un autre sens, afin, justement, eh bien, de donner à l'Église et au monde une autre vision des choses, si vous voulez, de présenter au monde un Dieu beaucoup plus généreux, un Dieu beaucoup plus généreux, un Dieu qui ne soit pas tellement raide. Hein. Il est un peu raide, Dieu, dans la théologie traditionnelle. Il faut être catholique, il faut être baptisé, tout ça. Non, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça dans la théologie du pape. Le baptême n'est pas une nécessité, même la profession de foi catholique n'en est pas une. Alors évidemment, ça demande, en réalité, hein, ça demande, dit l'auteur là, c'est une entreprise grandiose qui demande une intelligence, enfin un travail digne de saint Thomas d'Aquin. Eh bien c'est ce que le pape était en train d'essayer de faire. Mais alors ça va changer, si on suit cette théologie du pape, eh bien l'Église catholique, il en restera plus rien quoi. Ce sera une autre Église finalement à laquelle on va aboutir. Alors, maintenant, ce texte de Lumen Gentium que je vous ai annoncé depuis longtemps, nous y voilà. Pardon, de Gaudium et Spes. Excusez-moi, j'ai toujours Lumen Gentium. Et c'est Gaudium et Spes. Alors, c'est la citation d'une conférence, d'une méditation du pape hein, à Jean quand il parlait à Paul VI. Comme je l'ai dit dans les conférences précédentes, dit le cardinal Wojtyla, là, en 75, 76, l'amour de Jésus-Christ, l'amour nuptial du Rédempteur s'adresse à chaque homme. C'est précisément cette vérité que le Concile Vatican II a insérée au centre même de son magistère. Nous le constatons dans la globalité de son enseignement, et en particulier dans la constitution pastorale sur l'Église dans le monde contemporain. Le texte auquel il convient de se référer en priorité est constitué par le numéro 22 de Gaudium et Spes. Il est pour ainsi dire le couronnement du premier chapitre, lequel traite de la dignité de la personne humaine. Le paragraphe en question, intitulé « Le Christ homme nouveau » est ainsi formulé. Alors voilà, le texte conciliaire est le suivant. Le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Adam, en effet, le premier homme, était la figure de celui qui devait venir, le Christ Seigneur. Nouvel Adam, le Christ, dans la révélation même du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. Il n'est donc pas surprenant que les vérités ci-dessus trouvent en lui leur source et atteignent en lui leur point culminant. Les vérités ci-dessus, donc, que le Christ, donc au sujet de la dignité de la personne humaine, c'est dans le Christ que l'homme va trouver sa dignité. Le Christ révèle à l'homme sa dignité. Bon, en soi, vous voyez, ça donne une... Si on comprend, en soi, ça fait quelque chose de très très grand, très très beau. Mais si on comprend ce que veut dire le pape, eh bien on est très surpris. Image du Dieu invisible, ça c'est le concile là encore. Il est l'homme parfait qui a restauré dans la descendance d'Adam la ressemblance divine, altérée dès le premier péché. Parce qu'en lui, la nature humaine a été assumée, non absorbée. Par le fait même, cette nature a été élevée en nous aussi à une dignité sans égale. Car par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Alors là, en quelque sorte, voyez comment il faut interpréter en quelque sorte. Cette phrase-là, eh bien, elle se trouve aussi 4 ou 5 fois dans le Nouveau Catéchisme. Hein. Il a pensé avec une intelligence d'homme, il a agi avec une volonté d'homme, il a aimé avec un cœur d'homme. Né de la Vierge Marie, il est vraiment devenu l'un de nous, en tout semblable à nous, hormis le péché. Alors, évidemment, si on a une manière de penser traditionnelle, bon, on trouve ce texte un peu poétique. Pour un texte conciliaire, c'est un peu de la poésie. Mais, bon, on se dit, ma foi, oui, bon, le Christ, c'est vrai, tout ça c'est beau, et notre Seigneur nous a apporté tout un tas de bienfaits. Il nous a révélé qui on était, bon, qu'on était fils de Dieu, qu'il fallait... Mais en réalité, c'est une manière de parler irénique, je dirais. On passe sous silence et le péché originel, et la nécessité de la rédemption, et le fait que tous les hommes naissent, oui, détournés de Dieu, tout ça, c'est passé sous silence. Ce n'est pas... Alors, voilà comment le commente le pape, disons le cardinal Wojtyla. Sans vouloir entreprendre une exégèse particulière, ni même un commentaire de ces formulations qui parlent d'elles-mêmes. Là, il trouve que ça parle d'elles-mêmes. Essayons de relever ce qu'elles contiennent de neuf et d'inspirant. Voilà, donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le pape prend dans le concile les textes nouveaux et va les interpréter dans le contexte de la nouvelle théologie. Tout d'abord, le concept même du mystère de l'homme, lié avec le fait de sa révélation, va à la rencontre de deux tendances, de deux conceptions. Alors là, il parle du rationalisme et de l'empirisme. Enfin, il est parfois un peu compliqué, hein, même en SH. Alors ensuite, s'appliquant à une catégorie du mystère en relation avec l'homme, le texte conciliaire explique successivement le caractère anthropologique, ou même dans un certain sens anthropocentrique, de la révélation faite aux hommes dans le Christ. Car cette révélation est centrée sur l'homme. Le Christ manifeste en plénitude l'homme à lui-même, mais à travers la révélation du Père et de son amour. Ensuite, la révélation n'est pas une théorie ou une idéologie. Elle réside en ce que le Fils de Dieu, par son incarnation, s'est uni à chaque homme, qu'il est devenu en tant qu'homme l'un de nous, en tout semblable à nous, hormis le péché. Le Concile, il dit, le Fils de Dieu s'est uni en quelque sorte à chaque homme. Le Pape, il dit, il s'est uni à chaque homme. Vous voyez, le « en quelque sorte » a disparu là. « En quelque sorte » a disparu. Alors, en réalité, je ne sais pas si vous avez compris, mais la première fois que j'ai lu ça, moi, j'ai rien compris. C'est difficile à comprendre. C'est très difficile à comprendre. Mais ce texte-là, pour le pape, est un texte clé. Il vient de le dire. Donc, il s'agit de l'union de Dieu avec tout homme. Dieu est uni avec tout homme. Alors, on voit le texte conciliaire, eh bien, il est ambigu. On ne comprend pas très bien ce que... On peut l'interpréter comme on veut. Traditionnellement, le Christ est uni à tout homme, enfin en quelque sorte, c'est-à-dire tout homme doit s'unir au Christ par la grâce. Mais il faut d'abord qu'il soit racheté du péché originel. Sinon, il ne peut pas être uni au Christ. Ça, le Concile ne le dit pas, mais à la rigueur, on peut l'interpréter dans ce sens. Ce que dit le pape, eh bien, il insiste sur ce fait que la révélation a un caractère anthropologique et même anthropocentrique. Ça veut dire que finalement, que fait la révélation qui nous est donnée par notre Seigneur Jésus-Christ? Elle a pour but de manifester l'homme à lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? On ne sait pas trop, mais on voit la révélation pour le pape est centrée sur l'homme. Centrée sur l'homme. Et il précise, le Fils de Dieu s'est uni à chaque homme. À chaque homme. Donc à tout homme. À tout homme. Et alors, Redemptor hominis, eh bien le pape reprend la même idée et il va la développer. Il reprend encore ce texte de Lumen Gentium, de Gaudium et Spes plutôt, et alors il dit ceci, c'est dans Redemptor hominis, il s'agit de l'homme dans toute sa vérité, dans sa pleine dimension. Il ne s'agit pas de l'homme abstrait, mais de l'homme réel, concret, historique. Il s'agit de chaque homme. Donc chaque homme, le Christ est uni à chaque homme. Chaque homme. Avant son baptême, dès qu'il naît, il va le développer. Parce que chacun a été inclus dans le mystère de la rédemption. Et Jésus-Christ s'est uni à chacun pour toujours à travers ce mystère. Alors, une petite précision. Dans ces citations-là, de la retraite du cardinal Wojtyla, Paul VI, et cette citation de Redemptor hominis, ne dites pas que c'est une erreur du traducteur, parce que là j'ai pris les citations dans la documentation catholique et dans l'édition française des méditations de Jean-Paul II. Alors c'est pas moi, faut pas dire que c'est du trucage. Alors le pape continue, c'est dans Redemptor hominis, vous trouvez la référence dans la documentation catholique, et pour vérifier le texte latin, c'est aussi dans les Acta Apostolici et Sedis. Tout homme vient au monde étant conçu dans le sein de sa mère et en naissant de sa mère, et c'est précisément à cause du mystère de la rédemption qu'il est confié à la sollicitude de l'Église. Cette sollicitude s'étend à l'homme tout entier et est centrée sur lui de manière toute particulière. L'objet de cette profonde attention est l'homme dans sa réalité humaine, unique et impossible à répéter, dans laquelle demeure intacte, voyez, l'homme dans sa réalité humaine unique et impossible à répéter, dans laquelle demeure intacte l'image et la ressemblance de Dieu lui-même. Alors le péché originel, oui, demeure intacte, c'est dans l'encyclique, la première encyclique du pape. Et alors, interprétation authentique du Concile, c'est ce qu'indique précisément le Concile, lorsque, en parlant de cette ressemblance, il rappelle que l'homme est la seule créature sur terre que Dieu ait voulu pour elle-même. Dans le Nouveau Catéchisme, là j'ai vérifié, parfois c'est vague, parfois ils expliquent la ressemblance, l'image elle demeure, parce que l'homme est image de Dieu, mais la ressemblance elle a disparu, elle revient. Dans le Nouveau Catéchisme, c'est plus catholique que le pape, disons. Mais c'est vague, disons, c'est très vague. C'est... L'homme tel qu'il est voulu par Dieu, choisi par lui de toute éternité, appelé, destiné à la grâce et à la gloire, voilà ce qu'est tout homme. L'homme le plus concret, le plus réel. C'est cela, l'homme dans toute la plénitude du mystère dont il est devenu participant en Jésus-Christ, et alors écoutez bien, et dont devient participant chacun des 4 milliards d'hommes vivant sur notre planète dès l'instant de sa conception près du cœur de sa mère. Voilà. Donc, c'est, eh bien, alors là, l'auteur est assez gentil. Il dit, on pourrait comprendre et interpréter tout ce texte dans le sens du dogme catholique jusqu'à la phrase disant que demeure intacte l'image et la ressemblance avec Dieu. Mais à partir de cette phrase, on ne peut pas. C'est plus catholique. À partir de cette phrase, on dit que tout homme est racheté et tout homme possède la grâce dès l'instant de sa conception. Dès l'instant de sa conception. Et alors, en réalité, bon, on comprend avec des théories comme celle-ci assez facilement ce que fait le pape. Il le dit ici, l'Église, la sollicitude de l'Église, elle va pour tout homme, quel qu'il soit. Bon, bien sûr, l'Église, la sollicitude, elle peut aller, de l'Église doit aller pour tout homme, mais l'Église, elle a d'abord ses enfants, c'est d'abord les baptisés. Et parmi les baptisés, d'abord les baptisés dans l'Église catholique. Donc tous les baptisés sont fils de l'Église et sont sujets de l'Église, hein, même si du moment qu'ils ont le baptême valide. Mais là, c'est tout homme. Alors, le pape se considérant en somme comme le père de l'humanité, eh bien, il va s'occuper d'abord de l'homme, des misères de l'homme, des... Bon, alors, les guerres et tout ça, c'est quelque chose d'affreux, mais on comprend avec cette idée qu'a le pape, surtout qu'il vient de faire... Il y a eu 6-7 réunions en faveur de la paix, et il y a encore la guerre en Yougoslavie. Alors, le pape, il est... il est tout à fait désespéré, quoi. C'est ce qu'il a dit le jeudi. Ah, encore. Oui, c'est ça, non, mais en plein endroit. Enfin, il y a une semaine, là, pour le jour de Pâques, il a prêché là-dessus, sur la paix, à nouveau, enfin, en disant que son cœur était meurtri. Bon, je ne dis pas que c'est normal, on doit tous... Mais enfin, on comprend que c'est l'objectif premier du pape, la paix entre tous les hommes, la paix entre toutes les religions. Alors, maintenant, donc, on a vu ce que disait le pape, si on essaie de systématiser davantage, toujours fondé sur les textes, hein, vous verrez, eh bien, le pape parle de deux révélations, en fait. Il y a deux révélations pour le pape. Il y a une révélation a priori, une première révélation, si vous voulez, révélation a priori, et qui est présente dans toutes les religions. Et cette révélation a priori présente dans toutes les religions, eh bien, c'est la rédemption universelle. C'est que tous les hommes sont sauvés. Mais alors, il y a que vient faire là la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, c'est ce que on appellera ce que l'auteur appelle, d'ailleurs utilisant je crois des mots de Karl Rahner, donc c'est la même école de pensée hein, que le pape et que Ratzinger, eh bien ça c'est la révélation a posteriori. Et alors on voit tout un tas de textes du pape reprenant les phrases justement ambiguës du concile, le Christ vient révéler la vérité de l'homme. Il vient révéler la vérité de l'homme. Alors c'est cette révélation a posteriori. La vérité de l'homme, eh bien c'est que tout homme est enfant de Dieu. Et c'est ça que notre Seigneur vient révéler. Il vient faire prendre conscience aux hommes qu'ils sont fils de Dieu et qu'ils sont rachetés. Alors, si on compare cette nouvelle théologie du pape et la tradition, eh bien la tradition, elle va parler... D'abord, si on parle de l'homme, qu'est-ce que c'est la vérité à propos... C'est vrai que notre Seigneur nous révèle la vérité à propos de l'homme, mais la vérité à propos de l'homme, eh bien, c'est que l'homme est un pécheur. C'est que tout homme naît avec le péché originel, que saint Paul nous dit, au chapitre 5, je crois, dans l'épître aux Romains, que le péché, il est passé en tous les hommes, que tous ont péché en Adam. Ça, le pape n'en parle pas. C'est que la rédemption est une nécessité absolue, et que cette rédemption se fait par la foi et le baptême. Il faut croire, être baptisé et garder les commandements de Dieu. Ça, c'est ça la vérité à propos de l'homme. La nouvelle théologie du pape, eh bien, elle n'est fondée justement, tête également d'ailleurs de Gaudium et Spes, j'ai pas pris le texte du concile là, je sais pas si, j'ai peut-être une citation par là. Il est dit dans Gaudium et Spes justement que pour les hommes qui ne sont pas chrétiens, eh bien ce plan d'amour de Dieu s'adresse aussi aux non-chrétiens, mais d'une manière qui n'est connue que de Dieu seul. D'une manière qui n'est connue que de Dieu seul. Bon, on peut dire cela, mais en réalité le pape, il fonde sa théologie justement sur ce qui n'est connu que de Dieu seul. Et la révélation a priori, qui devient pour le pape une certitude, c'est ce que nous ne pouvons pas justement connaître, parce que ce n'est connu que de Dieu seul. Qui est racheté dans les autres religions? Comment sont-ils rachetés? Il y en a peut-être, oui, ils sont tous rachetés par notre Seigneur, s'ils sont rachetés. Mais la théologie du pape, eh bien, c'est de faire, en fait, de ce qui n'est connu que de Dieu seul, comme une révélation qui vaut pour tous les hommes. Ils sont tous rachetés. Alors que Dieu ne l'a pas révélé et que personne ne peut rien savoir à ce sujet. Alors, donc, nous avons deux choses. La révélation, a priori, c'est que tous les hommes sont rachetés, tous les hommes sont capables d'accueillir celui que le pape appelle le Dieu d'infinie majesté. Et puis, la révélation a posteriori, le Christ manifeste en plénitude l'homme à lui-même, à travers la révélation du Père et de son amour, c'est-à-dire, eh bien, le Christ va révéler aux hommes que Dieu les aime et qu'ils sont sauvés. Alors la mission de l'Église, eh bien, elle va consister à cela. Il faut apprendre aux hommes que Dieu les aime et qu'ils sont rachetés par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas une nécessité pour eux, c'est seulement leur faire prendre conscience. Et dans Redemptor Hominis, eh bien, le mot de faire prendre conscience, ça arrive ça revient très souvent. Il faut faire prendre conscience. Donc on a une double révélation. Et on a une double foi. La première foi qui correspond à la première révélation, eh bien, c'est la foi à l'humanité, en somme. La foi à l'humanité. Foi que l'homme est capable d'accueillir le Dieu d'infinie majesté. Et puis la deuxième foi qui correspond à la révélation de notre Seigneur, c'est de croire que notre Seigneur est le moyen par lequel la lumière est donnée sur la véritable humanité de l'homme. Alors c'est aussi un texte du pape, que notre Seigneur fait comprendre à l'homme sa véritable humanité, sa véritable nature. Donc nature, qu'il est enfant de Dieu déjà. Alors si on a compris ça, on a la clé là pour lire de nombreux textes du pape. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que tous les textes du pape diront cela explicitement, hein. Parce que c'est le propre de ces théologies modernes, et aussi la théologie moderne. Le père Garrigou-Lagrange, parlant de la nouvelle théologie, c'est d'ailleurs cité dans un des derniers six synodaux, elle vient du modernisme et elle retourne au modernisme. Eh bien, la nouvelle théologie moderne, c'est une théologie moderniste, et comme les modernistes, ils ne sont pas, pour eux, il n'y a pas tellement de contradictions. Hein. Un jour, ils peuvent dire quelque chose d'entièrement catholique, le lendemain, quelque chose, justement, qui sera tout à fait moderniste. Eh bien, c'est un peu à cela que l'on aboutit. Alors, oui.
Est-ce qu'on peut dire que c'est le cas de l'encyclique sur les missions que...
Je ne sais pas, il faudrait la relire. Si je l'ai pas...
Schubert a lu.
Oui.
Relu.
Oui, oui.
Et il a dit, tout le premier passage, on croyait que c'est sur le fleuve.
Ah oui, 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 je me souviens. Oui, c'est vrai.
Mais
exactement. Voilà, c'est ça.
Et dans la même encyclique.
Oui, exactement.
Donc le missionnaire peut croire que le début, c'est tout à fait catholique, mais à la fin, c'est plus beau.
Oui, oui. Et si je me souviens bien, dans cette encyclique, justement, eh bien, le pape insiste de manière... en disant qu'il peut y avoir beaucoup d'hommes qui sont sauvés. Bon, ils le seront tous par le Christ, mais de quelle manière et quelle est la nécessité de la mission? Si on part de ce principe que tous les hommes, finalement, ils possèdent la grâce dès l'instant de leur conception, Ils sont tous sauvés par le Christ, oui, d'accord. Donc on garde en somme, on garde les dogmes, mais on leur donne un autre sens. On garde les termes, mais c'est ça, ouais.
C'est l'heure.
De théologie principale du pape sur laquelle est fondée toute son action et toutes les conclusions théologiques, c'est donc la thèse de la rédemption universelle. En réalité, c'est cela. Et alors, on a vu ce matin comment, eh bien, pour le pape, il y a deux révélations. Une révélation qui est faite à tout homme et dans toutes les religions. Et alors, une révélation qui est faite par notre Seigneur Jésus-Christ et qui a seulement pour but de faire prendre conscience de cette première révélation, que tout homme est sauvé. Et alors justement, comme il s'agit seulement de faire prendre conscience, eh bien cette révélation de notre Seigneur dans ses méditations, conférences de retraite faites au Vatican, parfois le pape dit que c'est au moment de l'incarnation que ça s'est passé, d'autres fois c'est sur la croix. Par exemple, ici, là, la naissance de l'Église, il parle donc au Vatican, hein. C'est le cardinal à ce moment-là. La naissance de l'Église qui eut lieu sur la croix au moment messianique de la mort rédemptrice du Christ fut dans son essence la naissance de l'homme, de chaque homme et de tous les hommes, de l'homme qui, qu'il le sache ou non, l'accepte ou non dans la foi, se trouve déjà dans la nouvelle dimension de son existence. Cette nouvelle dimension, saint Paul la définit tout simplement par l'expression « in Christo », dans le Christ. L'homme existe dans le Christ. Certes, il existait dans le plan divin, il existait depuis le commencement, mais c'est par la mort du Christ et la résurrection, par le mystère pascal, que cette existence est devenue un fait historique, qu'elle a marqué également sur le plan historique et humain l'ordre divin du salut, qu'elle l'a enraciné, pour ainsi dire, dans l'espace et le temps. Ainsi, c'est, si vous voulez, la mort historique de notre Seigneur, car Jésus est vraiment mort, il a vraiment vécu, eh bien, qui a fait que l'homme est rentré historiquement dans cette nouvelle dimension, c'est-à-dire parce que, eh bien, notre Seigneur nous a annoncé à ce moment-là qu'on était sauvés. Et toute la religion chrétienne a pour but de faire connaître aux hommes cette chose. Alors dans ses méditations, il parle aussi, il y a d'autres images qui viennent, donc il parle du Dieu de majesté infinie, c'est le Dieu d'assise, et puis alors il y a le Dieu de l'Alliance, le Dieu des chrétiens, c'est le même Dieu, mais le Dieu des chrétiens, c'est celui qui s'est manifesté davantage, mais tous les hommes connaissent et sont en relation par la grâce avec le Dieu de majesté infinie. Alors autre image qui revient sous la plume du pape, ou du moins du cardinal Wojtyla dans ses méditations, eh bien c'est l'image d'époux et d'épouse. Le Christ et l'époux, l'Église et l'épouse. Ça c'est très traditionnel. Chaque âme d'ailleurs est épouse de notre Seigneur. Saint Augustin développe cela d'ailleurs dans son commentaire sur les noces de Cana, sur l'évangile de Saint Jean. Quand il parle de l'incarnation de notre Seigneur qui est venu, et que toute âme doit devenir, par la grâce, l'épouse de Jésus-Christ. Mais alors, dans la théologie du pape, eh bien, l'épouse, c'est le Christ, mais l'épouse, c'est non seulement l'Église et les âmes qui sont en état de grâce, mais c'est toute l'humanité et tout homme, toute l'humanité et tout homme. Alors, c'est toujours dans ces méditations-là. « Voici que l'époux est avec vous. » C'est une phrase de l'Apocalypse, je crois. « Cette voix, l'Église l'a entendue et a compris que le Christ est avec nous, que l'époux est avec nous. Il est avec l'Église et dans chaque homme et avec toute la famille humaine. » Donc, il n'y a pas de conditions préalables. La foi, le baptême, la grâce sanctifiante, le rachat du péché originel, non, il est. Une tâche s'avère nécessaire, pouvoir annoncer sans relâche aux hommes de notre temps, voilà la mission de l'Église, l'époux est avec vous, Vous êtes aimé jusqu'à l'achèvement de cette donation définitive. Voici ce que Jésus nous a laissé en héritage, l'amour de chaque homme. Et à la fin de cette méditation, ou en résumant plutôt la méditation suivante, il dit ceci, « Comme je l'ai dit dans les conférences précédentes, l'amour de Jésus-Christ, l'amour nuptial du Rédempteur, s'adresse à chaque homme. » Alors on a bien ce qui est le propre de la nouvelle théologie, c'est de garder les expressions traditionnelles, mais de leur donner un autre contenu. Alors là, c'est un contenu élargi, on élargit le contenu, l'Église, eh bien ce sera, il y aura deux notions d'Église, donc, en conformité avec cela. Il y a l'Église du Dieu vivant, c'est celle qui englobe tous les hommes, et puis il y a l'Église au sens strict, eh bien c'est l'Église débaptisée. Et alors c'est pour cela que le Concile Vatican II, disons, oui, c'est pour cela sans doute, parce qu'il faut interpréter le Concile à la lumière d'Assise, c'est la thèse de l'abbé Dürrmann, eh bien le Concile Vatican II, et là c'est dans Lumen Gentium, et c'est repris dans Redemptor Hominis, dit que l'Église est le signe et le sacrement de l'unité de tous les hommes. De tous les hommes, c'est-à-dire l'Église a pour but, eh bien, de faire connaître aux hommes qu'ils sont tous un, parce qu'ils sont tous, dès l'origine, enfants de Dieu, mais par la grâce. Alors l'Église, qui connaît cela, qui connaît cela par révélation, doit aider tous les hommes à prendre conscience que, eh bien, qu'ils le veuillent ou non, ils appartiennent à l'Église. Ce sont les chrétiens anonymes dont parlait Karl Rahner, les chrétiens anonymes, c'est-à-dire tout le monde est chrétien, mais ils ne le savent pas, mais ils sont tous chrétiens. Et alors, bon, ceci, justement, vous pourrez voir avec ce livre et l'analyse qui en est faite, eh bien, que c'est bien ce que veut dire le pape, et il, dans le livre suivant, là, qui est apparu en allemand il y a 6 mois à peu près, eh bien il analyse et montre que Redemptor Hominis reprend bien les mêmes thèses, de manière peut-être plus discrète que dans les méditations, mais c'est bien la même thèse qui est reprise. Et alors donc, on peut voir qu'il y a une nouvelle théologie. Si on essaie de remonter, on voit abandon de la doctrine catholique par l'abandon de la philosophie traditionnelle, de la philosophia perennis, nouvelle théologie qui garde les mêmes mots, et alors, eh bien, finalement, c'est une nouvelle religion qui s'instaure. Nouvelle religion qui s'instaure, ayant pour but, hein, consciemment, je ne sais pas ce qu'ils pensent, eux, ils pensent peut-être faire beaucoup de bien à l'humanité, parce que c'est une nouvelle religion qui sera plus adaptée à l'homme moderne. Et ça, c'est le but de la nouvelle théologie, de présenter la religion d'une manière plus adaptée. Et ils ne pensent pas forcément à la changer, puisque pour eux, comme le dogme peut évoluer, comme ils ont perdu la philosophie de l'être, l'être n'est pas quelque chose de stable. Comme ils sont dans la philosophie de l'existence, eh bien, la religion, éventuellement, on ne peut pas connaître de manière absolument réelle, précise, ce qu'est l'être, ce qu'est... Et donc, la religion s'adapte un peu aux besoins de l'homme moderne. Et en réalité, cette thèse, je crois que nous, parce qu'on a gardé la philosophie traditionnelle et le catéchisme traditionnel, on est surpris et on est effrayé de voir cela. Mais les gens de notre époque, le commun des mortels, si on leur dit « mais tout homme peut se sauver dans toutes les religions », eh bien, ils seront tout à fait d'accord, ils trouveront que c'est très bien, au contraire. Toutes les religions sont bonnes, il y en a qui sont meilleures que d'autres, mais elles sont toutes bonnes. Et quels sont les gens qui ont été réellement scandalisés par la cérémonie d'assises, surtout avec toutes celles qui ont suivi, ben je crois que c'est une minorité ceux qui sont scandalisés. Autant, je crois, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, il me semble que c'est une minorité ceux qui sont scandalisés par les réunions comme celles d'assises maintenant, parce qu'ils adoptent petit à petit. Enfin bref. Alors si on veut juste quelques petits exemples pour... qui nous feront comprendre, une fois qu'on a saisi la théologie du pape, eh bien, qui nous feront comprendre son action. eh bien, le pape, quand le pape a rencontré les vaudous en Afrique, donc des sorciers, qu'est-ce qu'il leur dit ? En réalité, l'Église catholique regarde favorablement le dialogue avec les chrétiens des autres églises et communautés ecclésiales, dialogue avec les croyants d'autres familles spirituelles, dialogue aussi avec ceux qui ne professent aucune religion. Elle veut établir des relations positives et constructives avec les individus et avec les groupes humains de foi variée pour un mutuel enrichissement. Alors il s'appuie sur le Concile Vatican II, qui a, et il reprend une idée qui lui est chère d'ailleurs dans ses encycliques, là, Redemptor Hominis et les deux autres en particulier. Excusez-moi, là, c'est l'Osservatore Romano, en anglais. Hein. Ça vient de l'abbé Monsieur Williamson, qui avait envoyé ça à tous ses prêts, à tous les. Le second Concile Vatican II, qui a marqué la route de l'Église vers la fin de ce millénaire, a reconnu que dans les diverses traditions religieuses, il y a quelque chose de vrai et de bon, qui sont les semences du Verbe. Et il a encouragé les disciples du Christ à découvrir les richesses qu'un Dieu généreux a distribuées parmi les nations. C'est le fondement d'un dialogue fructueux. Comme l'apôtre saint Paul l'a déclaré aux premiers chrétiens, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est gracieux, s'il y a quelque excellence et quelque chose qui est digne de louange, eh bien, pensez à toutes ces choses. Alors le pape cite cela, mais il oublie de dire ce que saint Paul dit aux Romains, par exemple, et ils sont inexcusables parce que, alors qu'ils auraient dû connaître Dieu, eh bien, ils l'ont. Tout ce que saint Paul dit contre les fausses religions. Alors c'est cette manière absolument de voir les religions uniquement sous le bon aspect, c'est-à-dire de religion naturelle, d'une certaine recherche de Dieu, sans voir que ce sont des religions inventées par le démon, comme en particulier le vaudou, là, le père Mariat pourra nous dire, bon, je ne connais pas, mais comme ça, je connais mieux. Alors, bon, ça c'est un exemple en Afrique. Alors un exemple en Inde, on m'a renvoyé tout récemment, c'était de novembre 1992, le séminaire pontifical de Pune, eh bien, fêtait son centième anniversaire. Alors il y a un titre, voilà, séminaire pontifical, propager l'amitié parmi les fois différentes, entre les fois différentes. Et alors le recteur de ce séminaire, eh bien, il dit qu'ils sont en train de rechercher des phrases de sanskrit pour concrétiser justement ce concept d'amitié entre toutes les religions et de joie de vivre ensemble, hein, entre toutes les religions. Et alors il dit l'usage dont ces phrases vont être peintes et puis mises en évidence, hein, et l'usage du sanskrit et le fait de marquer, de souligner notre souci au-delà du dogme, hein, et le besoin d'avoir de cordiales relations entre les peuples de toutes les fois est une bonne indication des changements qui ont pris place dans cette institution, donc le séminaire, dont le premier but demeure évidemment quand même de former des leaders chrétiens. Et alors il est très fier de dire que ce séminaire maintenant, eh bien, qui peut offrir en même temps, bon, qui fait université de théologie, eh bien, peut offrir tous les sujets donc qui incluent toutes les religions, et même l'athéisme justement, comme le pape dit. Donc il y aura la logique formelle, bon, mais il y aura aussi enseignement du marxisme, de l'islam, de Heidegger, la pensée politique indienne, la pensée indienne primitive, le sanskrit, l'histoire de la christianité, du christianisme en Inde, l'hébreu biblique, le grec du Nouveau Testament, la théologie de la libération, etc. Alors, en réalité, ça, c'est l'application, et je suis sûr que ceci, bon, c'est paru dans un grand journal de Bombay, tous les évêques l'ont lu, mais le recteur ne sera pas inquiété, je pense, parce que c'est finalement propager l'amitié entre les religions, c'est finalement devenu le but de l'Église. Et c'est ce que le pape recherche, c'est ce qu'il a fait comme le but de son pontificat, et qui est signifié par toutes les réunions de prière, qui sont même pas œcuméniques au sens strict, parce qu'en principe l'œcuménisme c'est entre les chrétiens, mais de ce large œcuménisme entre tous les hommes de toutes les religions. Et alors ici, il y a eu en Corée, là on a pas mal, on a des prêtres qui vont régulièrement en Corée maintenant, et alors dans un journal catholique, ils ont parlé un petit peu de nous. Alors je résume, ça montre en réalité bien où se trouve le cœur du problème actuellement. Le problème principal, c'est eux qui le disent, hein, avec les partisans, enfin les adeptes de Mgr Lefebvre et de la fraternité, et qu'ils rejettent l'esprit du second concile du Vatican. Le but de ce concile n'était pas de renier la tradition de l'Église, mais plutôt de l'adapter aux besoins de la situation moderne. C'est ça. C'est le but de la nouvelle théologie. Et alors, actuellement, d'ailleurs, tous les changements, comme ils ont vu que le mot tradition, c'était quelque chose qui payait, on peut dire, alors ils font tout maintenant les changements au nom de la tradition. S'adapter à l'esprit moderne, mais ils disent toujours c'est la tradition maintenant. Parce que...
Ils ont un peu copié le profane.
Oui.
Le marketing l'emporte toujours.
Ah oui, c'est ça, oui.
Parce
oui.
Aujourd'hui, ben, faisons la tradition.
Ah oui, d'accord, exactement.
Charcuterie sur la tradition.
Ah oui, c'est ça.
Oui,
c'est ça.
Il n'y avait que pour l'Église, c'était interdit.
Oui, oui. Ah oui, maintenant. Voilà, exactement. Oui, c'est ça, oui. Ben oui. Ah, et alors, bon. Et alors là, la même chose. Le Concile n'a pas proclamé que Jésus-Christ n'était pas un chemin de salut. Mais il a laissé ouvert la possibilité d'autres moyens de salut que Jésus-Christ. Et le deuxième article de la déclaration pour les non-chrétiens établit que, eh bien, dans le Seigneur, donc le Seigneur, notre Seigneur, a réconcilié, Dieu a réconcilié toutes choses avec Jésus-Christ, qui est la voie, la vérité, la vie, mais sans exclure ce qui est droit et saint dans les autres églises et religions. Et alors, dans un autre ordre d'idées, on peut voir que le pape, quand même, quand il s'agit de morale, il semble assez strict, hein. Il est assez strict en réalité, que ce soit la contraception, que ce soit l'avortement, le divorce même, etc. Bon, il est assez strict. Mais pourquoi cela? Eh bien, il le fait toujours au nom, en réalité, principalement au nom de la dignité de la personne humaine. Parce que ça va contre la dignité de l'homme. Alors ça... Il n'abandonne pas tout pour autant, mais ce qu'il garde, c'est au nom de la dignité de l'homme, parce que, précisément, l'Église est responsable de tous les hommes, et elle doit enseigner à tous les hommes qui sont sauvés, qui sont fils de Dieu déjà, quoi.
On retrouve la même chose dans le Nouveau Catéchisme à propos de l'Église, dont vous parliez tout à l'heure,
oui.
L'Église au sens large, puis l'Église au sens strict. On retrouve dans le Nouveau Catéchisme, hors de l'Église, pas de salut. Mais quand on lit attentivement cette page, il est effectivement dit en sous-entendu que toute l'humanité fait partie de l'Église.
Oui, oui, toute l'humanité.
Hors de l'Église, pas de salut, mm-hmm.
Il, oui, exactement. Hors de l'Église, pas de salut, mais il l'interprète de telle manière que finalement, oui, tous les hommes font partie d'une certaine manière de l'Église au sens large. Et une chose qui revient souvent dans la théologie du pape, c'est la notion d'alliance. Eh bien, dans le Nouveau Catéchisme, il y a au moins trois alliances qui existent en même temps. L'alliance de Dieu avec tous les hommes, qui demeure pour toujours, c'est l'alliance avec Noé, d'ailleurs. C'est marqué dans l'explication du credo. Il y a l'alliance avec le peuple juif qui existe toujours, et puis la nouvelle alliance qui existe quand même aussi toujours.
Actuellement, je me sers souvent moi-même de ce texte de Pie IX dans l'encyclique Quando Confuciamur, et qui, à mon avis, est un des meilleurs.
Pour le salut des infidèles.
Le premier devoir canonique qu'on avait en Côte d'Ivoire, c'était sur ça. Le salut des infidèles. Parce qu'on avait des canoniales, nous. Mm-hmm. 5 ans après l'ordination, on doit continuer à faire des deux. C'est le texte le plus L'abbé, ça vaudrait la peine, je crois.
Oui, de le lire, oui. Oui, bien sûr. Alors, le pape dit, il faut rappeler de nouveau et blâmer l'erreur très grave où sont malheureusement tombés quelques catholiques. Ils croient que les hommes vivant dans l'erreur et séparés de la vraie foi et de l'unité catholique peuvent parvenir à la vie éternelle. Cela est tout à fait contraire à la doctrine catholique. Nous le savons et vous le savez, ceux qui souffrent d'une ignorance invincible à l'égard de notre très sainte religion et qui observent avec soin la loi naturelle et ses préceptes gravés par Dieu dans le cœur de tous, sont disposés à obéir à Dieu, qui mènent une vie honnête et juste, ceux-là peuvent, par l'efficacité de la lumière divine et de la grâce, acquérir la vie éternelle. Mais alors, actuellement, eh bien, on fait, dans le nouveau catéchisme, on semble faire de l'exception la règle, et dans la théologie du pape, il n'y a plus du tout d'exception, ce n'est pas une exception. Si vous voulez, c'est tous les hommes qui, sans exception, peuvent obtenir le salut, même s'ils ne croient pas à notre Seigneur Jésus-Christ.
Oui.
C'est pour ça, exactement, oui, c'est ça.
C'est réduit.
Alors, attendez. Dieu qui voit parfaitement les esprits, les âmes et les pensées, les habitudes de tous, les scrute et les connaît, ne souffre pas, dans sa bonté et dans sa clémence souveraine, que quelqu'un qui n'est point coupable d'une faute volontaire soit puni par des supplices éternels. Mais parfaitement connu aussi est le dogme catholique, hors de l'Église, nul ne peut être sauvé. Et les contumaces rebelles à l'autorité et aux définitions de l'Église, ceux qui demeurent opiniâtrement hors de l'unité de cette Église et séparés du pontife romain successeur de Pierre, à qui la garde de la vigne a été confiée par le Sauveur, ceux-là ne peuvent obtenir le salut éternel. Oui, donc on arrive finalement à une nouvelle théologie, une nouvelle foi.